Les vœux du héron.
Le repas en était au quatrième des six services, et la place du comte d'Artois à la gauche de la reine Philippa demeurait vide. « Notre cousin Robert n'est-il donc point rentré ?» demanda Édouard III, qui s'était déjà, en s'asseyant à la table, étonné de cette absence. Un des nombreux écuyers tranchants qui circulaient derrière les convives répondit qu'on avait aperçu le comte Robert retour de la chasse voici près de 2 heures. Que signifiait pareil manquement? Si même Robert était là ou malade, il eût pu envoyer un de ses serviteurs pour porter au roi son excuse. « Robert se conduit à votre cour, sire mon neveu, tout juste comme il le ferait en auberge. Venant de lui d'ailleurs, ceci n'a rien pour surprendre, » dit Jean de Hainaut, l'oncle de la reine Philippa. Jean de Hainaut, qui se piquait d'être maître en chevalerie courtoise, n'aimait guère Robert, dans lequel il voyait toujours le parjure, banni de la cour de France pour falsification de sceaux, et il blâmait Édouard III de lui accorder si grande créance. Et puis Jean de Hainaut naguère avait été épris de la reine Isabelle, comme Robert, et sans plus de succès. Mais il était blessé par la manière gaillarde dont Robert parlait en privé de la reine mère. Édouard, sans répondre, garda ses longs cils baissés, le temps que s'apaisa l'irritation qu'il éprouvait. Il se retenait d'un mouvement d'humeur qui eût pu faire dire ensuite « Le roi a parlé sans savoir, le roi a prononcé des mots injustes ». Puis il releva son regard vers la comtesse de Salisbury, qui était certes la dame la plus attirante de toute la cour. Grande, avec de belles tresses noires, un visage ovale au teint uni et pâle, et les yeux prolongés du nombre mauve au creux des paupières, la comtesse de Salisbury donnait toujours l'impression de rêver. Ces femmes-là sont dangereuses, car, sous leur apparence de songe, elles pensent. Les yeux cernés de mauve rencontraient souvent les yeux du roi. William Montagu, comte de Salisbury, ne prêtait guère attention à cet échange de regards, d'abord parce qu'il tenait la vertu de sa femme pour aussi certaine que la loyauté du roi son ami, mais aussi parce qu'il était lui-même en ce moment captivé par les rires, la vivacité de parole, le pépiment d'oiseau de la fille du comte de Derby, sa voisine. Les honneurs pleuvaient sur Salisbury. Il venait d'être fait gardien des 5 ports et maréchal d'Angleterre. Mais la reine Philippa, elle, était inquiète. Une femme se sent toujours inquiète lorsqu'elle voit, durant qu'elle est enceinte, les yeux de son époux se tourner trop souvent vers un autre visage. Or, Philippa était prégnante, à nouveau, et elle ne recevait pas d'Édouard toutes les marques de gratitude et d'émerveillement qu'il lui avait prodiguées pendant sa première maternité. Édouard avait 25 ans. Il avait laissé pousser depuis quelques semaines une légère barbe blonde qui n'encadrait que le menton. Était-ce pour plaire à la comtesse de Salisbury? Ou bien pour donner plus d'autorité à son visage, qui restait celui d'un adolescent? Avec cette barbe, le jeune roi se mettait à ressembler un peu à son père. Le Plantagenet semblait vouloir se manifester en lui et lutter avec le Capétien. L'homme, simplement à vivre, se dégrade et perd en pureté ce qu'il gagne en puissance. Une source, si transparente soit-elle, ne peut éviter de charrier lorsqu'elle devient fleuve les boues et les limons. Madame Philippa avait des raisons d'être inquiète. Soudain, des accents de vielle tournée et de lutte pincée résonnèrent aigrelets derrière la porte dont les vantaux s'ouvrirent. 2 petites chambrières, âgées au plus de 14 ans, parurent, couronnées de feuillage, en longues chemises blanches et jetant devant elles des fleurs d'iris, de marguerites et d'églantines qu'elles sortaient d'une panière. En même temps, elles chantaient « Je vais à la verdure car l'amour me l'apprend ». 2 ménestrels suivaient, les accompagnant de leur instrument. Robert d'Artois marchait derrière eux, dépassant à mi-corps le petit orchestre et soulevant à 2 bras son héron rôti sur un large plat d'argent. Toute la cour se mit à sourire, puis à rire de cette entrée de farce. Robert d'Artois jouait les écuyers tranchants. On ne pouvait inventer manière plus gentille et plus gaie de se faire pardonner un retard. Les valets avaient interrompu leur service, et le couteau ou l'aiguère en main, ils s'apprêtaient à se former en cortège pour prendre part au jeu. Mais soudain la voix du géant s'éleva, couvrant chansons, luttes et vielles. « Ouvrez vos rangs, mauvaises gens faillis, c'est à votre roi que je viens faire présent !» On riait toujours. Ce « mauvaise gens faillis » semblait une joyeuse trouvaille. Robert s'était arrêté auprès d'Édouard III et, esquissant un fléchissement du genou, lui présentait le plat. « Sire !» s'écria-t-il. « J'ai là un héron que mon faucon a pris. C'est le plus lâche oiseau qui soit de par le monde, car il fuit devant tous les autres. Les gens de votre pays, à mon avis, devraient s'y vouer, et je le verrais figurer aux armes d'Angleterre mieux que je n'y vois les lions. C'est à vous, roi Édouard, que j'en veux faire l'offrande, car il revient de droit au plus lâche et au plus couard prince de ce monde, qu'on a déshérité du royaume de France et auquel le cœur manque pour conquérir ce qui lui appartient. » On s'était tu. Un silence angoissé chez certains, indigné chez les autres, avait remplacé les rires. L'insulte était indubitable. Déjà Salisbury, Suffolk, Guillaume de Mony, Jean de Hainaut, à demi levés de leur siège, attendaient pour se jeter sur le comte d'Artois un geste du roi. Robert ne semblait pas ivre. Était-il fou? Certes, il fallait qu'il le fût, car jamais on n'avait ouï que personne en aucune cour, ni à plus forte raison un étranger banni de son pays natal eût agi de pareille façon. Les joues du jeune roi s'étaient empourprées. Édouard regardait Robert droit dans les yeux. Allait-il le chasser de la salle, le chasser de son royaume? Édouard prenait toujours quelques secondes avant de parler, sachant que chaque parole de roi compte, ne fût-ce que lorsqu'il dit « bonne nuit » à son écuyer. Clore par force, une bouche ne supprime pas l'outrage qu'elle a proféré. Édouard était sage, et il était honnête. On ne montre pas son courage en ôtant par colère à un parent qu'on a recueilli et qui vous sert les bienfaits qu'on lui a octroyés. On ne montre pas son courage en faisant jeter en prison un homme seul, parce qu'il vient de vous accuser de faiblesse. On montre son courage en prouvant que l'accusation est fausse. Il se leva. « Puisqu'on me traite de couard face aux dames et à mes barons, il vaut mieux que je dise là-dessus mon avis. Et pour vous assurer, mon cousin, que vous m'avez mal jugé, et que ce n'est point lâcheté qui me retient encore, je vous fais vœu qu'avant l'année achevée, j'aurai passé l'eau afin de défier le roi qui se prétend de France. Et me combattre à lui, vint-il à moi 1 contre 10. Je vous sais gré de ce héron que vous avez pris pour moi et que j'accepte avec grand merci.